je suis avec vous autres, on va vous aider, puis on comprend la détresse de certaines personnes.
Je suis prêt moi-même à aller travailler dans le bureau gratuit, s'il le faut, pour que les choses avancent.
J'ai pris la décision de suspendre le financement futur de Hockey Canada.
Bonne fin de journée, tout le monde. Ben, le verdict est tombé pour des propriétaires de résidences évacuées du quartier où un glissement de terrain menace d'emporter leur maison du côté du secteur Labbé, là, à Saguenay. On a appris aujourd'hui qu'il y a 5 maisons qui vont devoir carrément être démolies, 4 autres qui font l'objet d'analyses. Leur sort n'est pas encore scellé. Et ben, en fait, c'est ce qu'a annoncé le premier ministre du Québec lors de sa visite à Labbé ce matin. On imagine ce soir le choc pour ces familles qui vont ou qui risquent de tout perdre. Au moment où on se parle, là, il y a une rencontre justement entre les autorités et les sinistrés. Il y en a qui sont peut-être en train d'apprendre la mauvaise nouvelle. Mais la bonne, c'est que Québec va être là pour aider avec un financement bonifié. C'est un bon pour les sinistrés. Donc, quand même, plusieurs auront une bonne nouvelle. On va tenter de parler un peu plus tard à un des propriétaires. Mais d'abord, Laurence Royer nous résume ce qui a été annoncé ce matin par François Legault.
C'était un château fort pour les enfants. Oui. C'était une sécurité.
Vous avez des enfants de quel âge?
Ça va de 1 à 10.
Vous en avez combien?
5.
Ben, je vais tout de suite vous rassurer, là. On va couvrir le coût de reconstruction, le coût des meubles, de remplacement.
C'est par des sinistrés bien émotifs que le premier ministre François Legault a été accueilli ce matin à Labbé. Il est venu annoncer auprès de 200 évacués qu'ils auront accès à plus d'argent pour s'en sortir. Le montant alloué aux propriétaires passe de 260 000 $ à 375 000 $ et leur allocation quotidienne est doublée.
Pensez-vous qu'avec 375 000, c'est un montant qui a du bon sens, plus les meubles?
Je crois, mais tiens, on n'a pas fait de calcul. Okay.
C'est sûr que la valeur marchande a augmenté. Ouais. Le coût des matériaux de construction a augmenté, les coûts pour construire ont augmenté. Donc, on parle d'une valeur de reconstruction. Et on va aussi rembourser la valeur de remplacement des meubles.
Monsieur Legault dit qu'il est le gouvernement des régions, mais pour moi, aujourd'hui, il est le gouvernement de la bienveillance et de l'empathie pour les gens qui vivent une tragédie à l'heure actuelle.
François Legault a également rencontré les responsables du Centre de coordination des mesures d'urgence à Chicoutimi. Ça lui a permis de présenter les premiers résultats des analyses qui ont été faites sur le terrain. Des 76 maisons évacuées, 5 devront être détruites. 4 sont toujours sous analyse et 67 pourront être réintégrées dans les 2 à 4 prochains mois, une fois que le sol sera stabilisé et que l'endroit sera sécuritaire.
Ce que le ministère des Transports me dit, c'est que les travaux vont quand même être longs. On parle de 2 à 4 mois. Donc, je peux comprendre que pour les 67 familles qui vont pouvoir éventuellement retourner dans leur maison, ça va être une période dure. C'est pour ça qu'on donne 40 $ par jour, là, parce qu'il y a des gens qui ont besoin de s'acheter certains éléments ou de louer des choses.
Et les résidents des 67 maisons qui pourront être sauvées ne pourront pas toucher la somme prévue pour l'aide à la reconstruction. S'ils ont peur de retourner chez eux, ils devront déménager, affirme le premier ministre.
Si personne n'avait absolument pas revenir, qu'on lui dit que c'est parfaitement sécuritaire, bien, si elle ne veut plus habiter là, peut vendre sa maison. Donc, il faut quand même... on ne peut pas commencer à dire « tout le monde va déménager », c'est sécuritaire.
Ouais, bonsoir, Laurence. Je le disais,
bonsoir,
il y a une rencontre
Michel.
Entre les autorités et les sinistrés au moment où on se parle. Puis un peu plus tard, tu devrais être en mesure d'avoir des détails sur les expertises qui sont faites en ce moment sur le terrain.
Ouais, donc on me tient au courant au fur et à mesure. La rencontre avec les sinistrés vient tout juste de se terminer. Donc, ils ont rencontré pendant plusieurs heures des experts du ministère des Transports. Ils ont pu poser différentes questions. Surtout, ils veulent savoir, bon, quand vont-ils pouvoir retrouver leur maison? Est-ce qu'ils vont pouvoir aller chercher des choses aussi dans leur maison? C'est quoi la suite des choses également? Donc, la ville, les experts du ministère des Transports ont tenté de se faire rassurants. Paraît qu'il y a même eu quelques rires pendant cette rencontre. Il y avait des travailleurs sociaux sur place aussi. Donc, une rencontre, oui, pour les médias qui doit maintenant commencer. On va tenter, nous aussi, là, à notre tour, d'aller chercher un peu plus d'informations. Donc, une rencontre qui devrait durer pour la prochaine demi-heure, peut-être même la prochaine heure. Ce sera suivi d'un point de presse de la mairesse de Saguenay. Donc, certainement, on va vous tenir au courant des détails.
Laurent, j'ai une question pour toi. Tu n'as peut-être pas la réponse, puis c'est pas grave, mais si tu l'as, ce serait bien utile. Est-ce que les sinistrés, quand ils sont rentrés dans cette rencontre-là, savaient si leur maison allait pouvoir être récupérable ou non? Est-ce qu'ils l'apprenaient lors de cette rencontre-là?
Je ne pourrais pas te dire, Michel, on n'était pas sur place quand la rencontre a commencé. Peut-être que là, une fois que la rencontre est terminée, on va être capable d'avoir cette information-là, mais malheureusement, pour le moment, je ne peux pas répondre.
On te laisse aller justement à cette rencontre avec les médias. Merci beaucoup, Laurence.
Bonne soirée, Michel.
Maintenant, autre crise, c'est celle des passeports. Puis c'est une crise qui semble assez loin d'être terminée. Hier, il y a la ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social, Carina Gould, qui a annoncé la mise en place d'un système de coupons pour prendre rendez-vous. Mais c'était pas suffisant pour faire diminuer l'affluence. C'est ce qu'a constaté mon collègue Emmanuel Lerounega, oui, qui est allé lui vérifier les effets, justement, de cette mesure au complexe Guy Favreau à Montréal.
C'est fou! La quantité de personnes qui est ici aujourd'hui au bureau de passeport à Ville-Saint-Laurent, j'ai jamais vu ça.
Vous, vous êtes arrivé ici quand?
À 18h hier soir.
Tuesday morning at 2 a.m. Moi, je suis là depuis hier nuit.
Vous avez passé la nuit ici? Il pleuvait hier soir.
On avait deux parapluies, deux chaises. On se relayait, moi et ma soeur. Je me marie en Jamaïque. Donc, on part dimanche le 26. On est un groupe de 31 personnes. Okay. Et j'ai pas les passeports de mes enfants.
Beaucoup des gens qu'on a rencontrés sont pas tant ici pour leur propre passeport que pour ceux de leurs enfants.
Ben nous, on devait partir pour le Panama pour 6 mois. On devait partir vendredi. On a commencé les démarches pour le passeport le 5 mars. On n'a plus de logement, on n'a plus rien à partir de demain soir. Je me retrouve à la rue avec ma fille de 13 ans. Et puis tout ce qu'on nous dit, c'est complet pour cette semaine. Revenez la semaine prochaine. C'est parce qu'on nous a dit la même chose la semaine passée, l'autre semaine d'avant, l'autre semaine d'avant.
Howard est un des chanceux qui est maintenant juste en avant de la file. Il a commencé à attendre il y a 36 heures à la fin du Dollarama là-bas. Mais maintenant, la file s'étend beaucoup plus loin.
Vous êtes les dernières personnes dans la file actuellement. Comment est-ce que ça vous fait sentir en voyant tout ça?
Désespoir.
On avait de l'espoir. Et là, plus que le temps avance, plus qu'on se questionne avec tout le monde qu'il y a devant nous. Quand est-ce que quelqu'un va venir nous voir? On n'a aucune réponse, aucune façon d'avoir de l'information.
Moi, je viens du Venezuela, OK? Puis là-bas, au Venezuela, quand c'est arrivé des choses comme ça, pareil, les gens, ils faisaient des étampes sur le passeport, puis ils mettaient une prorogation que ça durait le temps que les gens ils voulaient, 6 mois, 1 an, puis ça permettait au moins les gens de trouver une solution.
Est-ce que vous avez reçu un coupon? On avait annoncé que ce serait la grosse solution, que vous alliez avoir des coupons.
Il n'y a pas eu de coupon à date. Il y a une madame qui se promène qui demande ceux qui partent après le 28. C'est pas mal la seule information qu'on a eue à date.
Puis pour ceux qui partent avant?
On le sait pas.
Si c'est pas 24-48 heures, malheureusement, aujourd'hui, ça sera pas possible.
Il dit, c'est full aujourd'hui, c'est full demain. Et puis, pas d'autres informations. Est-ce qu'ils sont ouverts vendredi? Qu'est-ce que les gens doivent faire? Les gens qui voyagent demain, qu'est-ce qu'ils font? On ne bouge pas, hein? Moi, je dis là, moi, je ne bouge pas d'ici. Mon voyage, c'est le 28, mais je vais rester ici jour et nuit jusqu'au 28. C'est tout. Je n'ai pas d'autre solution.
Et mon collègue Emmanuel est avec moi. Petite correction, ce n'était pas du côté de Guy Favreau, mais plutôt de Ville-Saint-Laurent, les bureaux de Service Canada. Puis Emmanuel, il y a la mairesse de Montréal qui a réagi à cette crise-là.
Oui, elle était à une conférence sur la sécurité publique, donc elle n'a pas pu ne pas parler de ça. Elle a déploré les conditions dans lesquelles les gens doivent attendre, comme on l'a vu dans le reportage, le long temps dehors. Et aussi, elle explique que c'est une situation qui la touche elle-même personnellement, comme vous allez voir dans la clip.
Comme mairesse de Montréal, je trouve que c'est inacceptable. Donc, on le voit. On voit ces images de personnes qui ont suivi, qui ont refait une demande en bonne et due forme et qui se retrouvent à camper. Il n'y a pas de toilette, il n'y a pas d'eau. Il n'y a rien à manger. Je veux dire, ça n'a aucun sens. Et honnêtement, comme citoyenne et comme Valérie Plante, là, ben, je suis dans la même situation que ces gens-là. Alors, moi aussi, je suis en attente d'un renouvellement de passeport pour mon fils. Et est-ce qu'on... Oui, on a eu la conversation chez nous à savoir est-ce qu'on va devoir aller camper puis de se préparer. Est-ce que ça a du bon sens de se poser ces questions-là à la veille des vacances? La réponse, c'est non.
Et comme me le disait poétiquement une personne que j'ai rencontrée, ce sont des rêves, des projets, des idéaux qui viennent mourir dans une file d'attente de passeport.
Mais on comprend qu'il n'y a pas de passe-droit, hein, qu'on soit personnalité, qu'on soit une mairesse. Il faut attendre.
Exactement.
Merci beaucoup, Emmanuel.
Merci, Michel.
On va revenir sur le sujet un peu plus tard. Maintenant, parlons du docteur Horacio Arruda. Il est sorti de son silence aujourd'hui concernant, et on vous en parlait un peu plus tôt cette semaine, le rôle qu'il aurait joué dans le dossier de la qualité de l'air d'un quartier de Rouyn-Noranda. Il a dit aujourd'hui pas avoir caché d'informations cruciales. Je vous rappelle que Radio-Canada révélait plus tôt cette semaine qu'en 2019, le docteur Arruda, alors qu'il était directeur national de la santé publique, aurait fait retirer d'un rapport un annexe mentionnant des taux anormalement élevés de cancer dans le quartier Notre-Dame, un quartier voisin de la fonderie Orne. L'annexe soulevait également que les bébés nés dans le quartier étaient plus petits qu'ailleurs dans la province. Le taux d'arsenic dans l'air est montré du doigt.
J'ai recommandé, après discussion avec la directrice de santé publique, de retirer l'annexe en question. Les données de l'annexe n'ont donc jamais été cachées. Ces données circulent depuis 2019. J'ai jugé, avec la directrice de santé publique de la région, qu'elles n'avaient pas leur place dans le rapport pour les raisons évoquées, mais je le répète, elles n'ont pas été cachées.
Moins de 48 heures après le témoignage de dirigeants de Hockey Canada devant un comité parlementaire à Ottawa dans l'affaire du viol collectif commis par des joueurs, eh bien, le fédéral a décidé de serrer la vis à Hockey Canada. La ministre des Sports, Pascale Saint-Onge, a annoncé aujourd'hui le gel carrément du financement de l'organisation, le temps d'avoir des réponses à ces questions. On va en parler avec notre collaborateur sport et affaires, Ray Lalonde. Bonsoir, Ray.
Bonsoir, Michel.
Bon, c'est toute une histoire, puis on a vu même là, vraiment un mouvement de force, on pourrait dire, tous les députés de différents partis participer à un point de presse en fin de journée là-dessus. Hockey Canada, qui devait vraiment s'attendre à une réplique d'Ottawa après les témoignages troublants et préoccupants de lundi, qu'est-ce que tu as pensé d'abord de ce qui a été dit dans ce comité-là?
Bien, je pense que ce qui a été dit, ça méritait d'être dit, ça méritait un affrontement quelconque, parce qu'il faut questionner le jugement, les prises de décision des dirigeants d'Hockey Canada. Ce qui est toujours étonnant dans des situations comme ça, Michel, c'est que ça arrive, les incidents, là, c'est quelques années plus tard. Ça veut dire que forcément, il y a eu des tentatives d'essayer de camoufler, déguiser, de baisser ça sous le tapis, puis de faire en sorte qu'on tente de préserver notre réputation, le prestige, les emplois de certains individus dans le but de dissimuler l'affaire. Quand il y a une victime, une tragédie, quelque chose qui est très grave. Alors, ce que j'ai entendu hier, c'était effectivement à point vis-à-vis le questionnement des dirigeants.
Bon, la ministre qui impose maintenant deux conditions à Hockey Canada avant que l'organisme puisse retrouver son financement, on parle de quelles conditions?
Bien, il faut qu'il partage le rapport interne là, de cette firme d'avocats qui est embauchée par Hockey Canada pour enquêter discrètement,
dossier.
Sans partager. Alors ça, évidemment, ils veulent voir le contenu de ça. Surtout qu'on dit que plusieurs des accusés potentiels n'ont pas participé aux rencontres, aux questionnements et aux discussions.
Alors au point où on dit qu'on ne connaît pas... En fait, les dirigeants de Hockey Canada qui ont témoigné, on dit on ne sait pas c'est qui, les noms des joueurs,
on ne les a pas. Ou le nombre. Le nombre.
Ben, on parlait quand même de plusieurs, là, 7, 8, oui.
Exact. Alors ça, c'est une chose. L'autre chose, c'est qu'il faut adhérer à cette espèce de bureau du commissaire à l'intégrité du sport.
Qui a été récemment annoncé.
Annoncé parce que là, il faut voir que ces gens-là s'engagent à mieux faire à l'avenir. C'est inacceptable, c'est une situation très grave. Mais il y en a beaucoup de ça dans le sport, Michel, à plusieurs niveaux. Il y en a beaucoup dans d'autres industries aussi. Mais le sport, on dirait qu'il y a une espèce de forme de tentative de s'appuyer sur notre pouvoir, notre influence, notre autorité, puis de laisser passer ces incidents-là parce que ça compte moins dans l'objectif ultime qui est, pour le cas d'Hockey Canada, gagner des matchs de hockey et faire beaucoup d'argent.
Bon, pour conclure une entente à l'amiable dans une affaire comme ça de viol collectif, que l'organisation fasse enquête interne sans que tu disais que les joueurs y participent au point où on n'a pas de nom de joueurs, en tout cas les dirigeants n'ont pas l'air à savoir. Est-ce qu'on... Parce qu'on a l'impression aujourd'hui puis cette semaine que l'organisation d'Hockey Canada, bien, c'est une organisation carrément d'une autre époque.
Oui, tu as raison de le dire comme ça, absolument. Je pense qu'il faut questionner l'intégrité, l'authenticité, la transparence, puis la gouvernance moderne de Hockey Canada, qui, je rappelle, est la fédération sportive la plus importante au Canada, une des plus influentes dans le monde entier, surtout au niveau du hockey. reçoit presque 15 millions de dollars annuellement du gouvernement fédéral pour pouvoir opérer.
Ça représente quoi? C'est quoi le pourcentage de son budget annuel?
Bien, j'ai pas le chiffre précis là-dessus, mais
en
plus...
Je pense qu'on disait une vingtaine de pourcents.
Oui, c'est le plus important, parce qu'il y a beaucoup de participants, bien sûr. Puis en plus, c'est une organisation avec un effectif, un but lucratif, qui commercialise le logo, la marque de Hockey Canada dans des événements comme le championnat du monde de hockey junior. Alors, ils ont les moyens, ils ont les ressources, mais ça a toujours été un petit château secret, ce qui se passe en Alberta au niveau d'Hockey Canada.
Bon, est-ce que c'est suffisant, ce gel de financement pour faire bouger les choses, selon toi?
C'est une première étape importante. Ça va en prendre d'autres, puis il doit y avoir des changements au niveau du leadership d'Hockey Canada.
C'est un changement profond, là, de mentalité.
De culture, de mentalité, puis probablement de dirigeant.
Bon, on dit Hockey Canada, mais est-ce que ça doit être toute l'industrie, tout le secteur du hockey qui doit changer de mentalité?
Le secteur du sport en général, Michel, à travers tous les niveaux. Mais le hockey, d'abord au Canada, parce que c'est un sport très important.
On en reparle, c'est certain. C'est un dossier chaud. Merci beaucoup, Ray. Merci, on va revenir donc sur ce chaos dans les bureaux de passeport à différents endroits au pays, surtout au Québec, parce qu'on va tenter de comprendre c'est quoi le problème au juste. Yvon Barrière est vice-président exécutif régional de l'Alliance de la fonction publique du Canada pour le Québec. Bonsoir, M. Barrière.
Bonsoir, monsieur.
Il y a ce qu'on voit, le camping devant les bureaux de services Canada, les files d'attente interminables, les coupons. Hein, c'est bien beau, mais ça ne règle pas le problème de fond. Le problème, expliquez-nous-le, c'est quoi? C'est un manque d'employés en ce moment?
Bien, merci de me donner. Puis je m'excuse d'être malheureusement là en automobile. Il y a eu un problème, je voulais être au bureau. Donc,
allons-y, c'est pas grave, on veut entendre vos réponses. Ça va vite, on a juste 4 minutes.
Bien,
allez-y. Okay.
Mais très rapidement, donc, de un, il y a un gros problème de gestion, de la haute gestion du ministère de Services Canada, définitivement. Dans un deuxième temps, il y a un problème aussi de communication. Lorsqu'ils affichent, qu'ils tweetent qu'au bureau de Laval, il y a 5 heures, mais c'est impossible. D'ores et déjà, je peux vous dire là, que les demandes présentement dépassent la capacité de pouvoir émettre en termes d'effectifs les passeports. Le problème se situe là, que le ministère a retardé de ramener le personnel qui avait été prêté, là, le personnel de passeport Canada avait été prêté là, à immigration, à assurance chômage et à tous les programmes pour la pandémie. Et ils ont retardé, malgré les drapeaux rouges que le syndicat avait envoyés l'automne 2021. Et en plus, les bureaux présentement, exemple du complexe Guy Favreau ou le complexe de Saint-Laurent, on a la moitié du personnel qui est disponible actuellement. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas fait d'embauche depuis peut-être les 20 derniers mois. Et les embauches qui ont été faites, c'est tout récent. Et la prochaine formation, imaginez-vous donc, pour les agents, de passeport, c'est le 1er août.
Donc, vous dites qu'à Guy Favreau, en ce moment, il y a la moitié du personnel qu'on aurait besoin en ce moment. C'est quoi la production qu'on est capable de faire? Combien de passeports peuvent sortir de là par jour?
Bien, présentement, écoutez, ils ont remis, puis présentement, la ministre là, cherche des faux fuyants, cherche un petit peu là, de trouver des excuses. Son problème de ces billets, ça ne fonctionne pas. Ils ont remis 75 billets au complexe Guy Favreau. Il reste encore 250 personnes en ligne d'attente. Je peux vous dire là, que le personnel, présentement, il est gêné. Ils font beaucoup de travail. Écoutez, le vendredi dernier, les gens du complexe Guy Favreau ont travaillé jusqu'à 2h30 du matin. Et le lendemain matin, ils étaient à 7h au complexe pour imprimer puis envoyer des passeports et d'appeler des clients pour dire « Votre passeport est maintenant prêt. Mm-hmm. » Il aurait fallu que la ministre embauche du personnel, pas nécessairement la semaine passée ou il y a deux semaines.
Bon.
Parce qu'on est dans un marasme. Elle aurait fallu qu'elle fasse ça là, pour le mentionner là, en 2021.
Oui, c'est ça. Il y a plusieurs mois, quand on sentait qu'elle allait avoir une reprise, je vous ai entendu, vous avez fait plusieurs entrevues aujourd'hui, vous dites, on a tiré la sonnette d'alarme il y a plusieurs mois. Parlons de maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire? Parce que concrètement, il y a des gens qui attendent, qui veulent leur passeport, c'est long. Est-ce qu'on peut accélérer le processus? Est-ce qu'on peut accélérer, par exemple, les formations qui prennent quand même 15 semaines?
Mais il faut absolument que les gens puissent passer pour les tests de rigueur, donc le fameux 3 semaines de formation théorique. Il ne faut pas non plus là, que ça soit trop large et qu'il pourrait y avoir quand même des erreurs. On a conseillé donc d'appeler les retraités, d'appeler aussi des anciens membres d'agents de passeport qui ont été mutés ou qui ont eu des augmentations ou des améliorations dans d'autres ministères. Donc, on a proposé, on propose, mm-hmm. on dit depuis, pas depuis la semaine passée, depuis la mise en vie qu'on propose des solutions de rechange
oui.
Au ministère. Et on dirait qu'eux autres n'ont pas pensé. Puis, de toute façon, la ministre l'a dit ce matin. Hein, ça fait des mois qu'on sait qu'il va y avoir une recrudescence de demandes et ils n'ont rien fait. Bon. Donc, c'est de l'improvisation actuellement. Et je vous le dis, nos membres font un travail dans les circonstances exceptionnelles.
On comprend mieux le problème, mais on comprend que ce n'est pas réglé. Puis le pire est à venir parce qu'en juillet, ce sera les 10 ans du passeport 10 ans, donc des renouvellements à la tonne peut-être. Merci beaucoup, M. Barrière. On vous réinvite bientôt. Au revoir.
Je vous en prie, merci.
Au revoir. Au retour, on va parler d'inflation parce que l'inflation bat un record qui date des années 80. On vous dit ça va, ouais, on vous dit si ça va se calmer. On espère que ça se calme. On en parle avec un expert dans un moment. Bien, on enchaîne les records avec l'inflation. Rien qu'au mois de mai, la hausse atteint 7,7 par rapport au mois de mai l'an dernier. C'est du jamais vu, en fait, depuis 1983. Juste pour vous dire, le litre d'essence, à l'époque, se vendait plus de 50 cents le litre. Aujourd'hui, bien, c'est autour de 2,10 $ le litre. On fait le point avec notre invité, Sébastien McMahon. Il est stratège en chef et économiste senior à IA Group Financier. Bonsoir, Sébastien.
Hey, bonsoir.
L'inflation semble s'élargir au-delà des denrées alimentaires et de l'essence. Comment on explique là, ce chiffre surprenant et qui marque quand même l'histoire?
Bien, il y a deux choses. Il y a ce mois-ci, pour la première fois, Statistique Canada a inclus la hausse du prix des autos usagées dans le chiffre. Donc ça explique une partie de l'accélération du chiffre d'inflation. Donc, l'inflation des auto-usagers était déjà là. Hein. C'est pas apparu ce mois-ci, mais on le regardait pas, puis maintenant, on l'inclut. Donc, ça explique un bout de l'équation. L'autre morceau, c'est bien sûr, c'est le prix de l'essence, le prix à la pompe. Là, ça fait deux mois au cours des trois derniers où on a une augmentation de plus de 10 % à l'intérieur d'un seul mois du prix de l'essence. Donc, ça explique l'accélération.
On parle même de 12 %.
Oui, exactement. Puis là, si on regarde le mois de juin, là, on est le 22 juin, le mois n'est pas fini, mais déjà par rapport à la fermeture du mois de mai, on est déjà 7 % plus haut encore. Donc, ça nous laisse penser que pendant l'été, bien, de l'inflation, on pourrait l'avoir continué d'augmenter encore. Puis s'il y a un sommet, probablement plus, c'est vers la fin de l'été.
Donc, on peut oublier pour le moment l'idée d'un retour à la normale à court terme.
Je pense que oui. Puis... l'inflation du côté de la nourriture, bien, regardez, il y a des sécheresses, les changements climatiques, c'est vrai, c'est réel, ça a un impact sur les prix de la nourriture. Conflit Ukraine-Russie, donc ça explique aussi une bonne partie. Le prix de l'essence, bien, on voit le prix du pétrole qui a baissé un petit peu là, sur Wall Street, mais le prix de l'essence à la pompe, bien là, on est encore au-dessus de 2 $. Il y a des solutions. Peut-être les gouvernements pourraient donner un petit coup de pouce aux consommateurs en coupant la taxe sur l'essence de façon temporaire du moins. On a fait ça en Alberta, mais juste pour donner une idée, aujourd'hui, le prix de l'essence à Calgary, c'est 1,92 $. Puis au Québec, on est plus aux alentours de 2,15 $, 2,20 $. Mm-hmm. Donc oui, ça aide, mais ça ne fait pas des miracles non plus. Là.
Bon, on soulignait d'entrée de jeu qu'il s'agit d'un record de hausse de l'inflation depuis près de 40 ans. C'est quoi la différence entre 1983 et 2022?
Bien, aujourd'hui, c'est vraiment les effets secondaires de la pandémie. Donc là, on a l'inflation qui est avec nous, il y a Ukraine-Russie. Donc, c'est beaucoup du côté de l'offre, qu'on dirait en jargon d'économiste. Donc, c'est plus difficile d'amener aux consommateurs de la nourriture, de l'énergie. Donc, ça coûte plus cher. Dans les années 80, n'oubliez pas qu'on venait de passer par une période inflationniste assez importante dans les années 70. Et puis là, c'était de l'inflation qui était imbriquée. C'était vraiment des spirales inflationnistes où les conventions collectives prévoyaient des clauses où on aurait une hausse de l'inflation d'environ 5-10 %. Donc, les salaires augmentaient de façon automatique à chaque année, qui ça générait de l'inflation. Donc, pour se prévenir de l'inflation, on générait de l'inflation. Ça a été l'histoire des années 70-80. Début des années 90, ça a été cassé. Là, maintenant, ouais. c'est plus une histoire vraiment géopolitique qu'on vit. Là.
Bon, je pense que j'avais la même question pour vous la dernière fois que vous êtes venu dans ce bulletin. Je pense que c'était la semaine dernière ou l'autre avant. Est-ce qu'on s'en va vers une récession, oui ou non? Avec l'information aujourd'hui, est-ce qu'on tend davantage vers une récession?
Bien, la bonne nouvelle, c'est que le Canada est en bonne posture, probablement pour éviter une récession. Je vous dirais que les probabilités de récession au Canada, 30-35 d'ici la fin 2023, je pense que c'est raisonnable. Nos voisins du Sud, je pense qu'ils vont avoir de la difficulté à l'éviter. Mais là, ici, il ne faut pas oublier que récession en 2008 et en 2020, c'est des récessions très profondes. Là, ce n'est pas une récession si profonde que ça qu'on voit, c'est plus de nature technique.
Sébastien McMahon, merci beaucoup d'avoir été avec nous.
Toujours un plaisir.
Au revoir. Comprendre et parler la langue du pays dans lequel on vit, bien, c'est essentiel, particulièrement pour les enfants. Alors, même si l'école est finie, les classes de français vont se poursuivre pour 1000 jeunes nouveaux arrivants. Et ma collègue Anaïs Elbouche-Daini qui est allée rencontrer certains de ces élèves.
On regarde le chemin parcouru, puis je pense qu'on est toujours fiers des enfants, premièrement, qui ont tout donné pour apprendre le français, pour s'intégrer.
Est-ce que ce sont des enfants qui sont ici par le choix des parents, donc des gens qui ont immigré par choix, ou des fois, c'est des gens qui n'ont pas le choix, qui arrivent d'un pays en guerre, donc des réfugiés. Mais tous ces enfants-là se côtoient, s'aiment, il n'y a pas de différence pour eux.
Tu avais combien d'élèves sur ta liste au début de l'année?
J'avais un élève. Maintenant, j'en ai 13.
Ma première journée de l'école s'est traitée très bien parce que mon enseignant, il était très gentil.
Puis là, on est à la fin de l'année. Qu'est-ce que ça fait de les laisser partir en voyant tout le progrès qui a été fait?
On est content parce qu'ils sont prêts. Hein? Ceux qui quittent pour la classe régulière sont prêts, mais en même temps, on s'attache à eux.
Je dirais que j'essaie de rester sereine parce que les enfants arrivent ici avec leurs petits baluchons et puis on essaie de les amener plus loin.
La vague la plus importante en ce moment sont les élèves du chemin Roxane. On attend aussi l'arrivée d'élèves ukrainiens, mais pour l'instant, il n'y a rien de massif qui est arrivé. On en a seulement quelques dizaines qui sont arrivés. Le but, bien sûr, c'est que nos milieux sont quand même habitués à recevoir des élèves immigrants.
Ça se passe bien.
Les enfants sont très accueillants et sont toujours heureux d'avoir un nouvel ami avec qui jouer. Donc, nous, on se nourrit de leur énergie et puis on essaie de les mettre à profit. Souvent, on va avoir un enfant qui parle la même langue ou peut-être même qui vient du même pays. Donc, ça devient un peu comme un jumeau là, qui peut l'épauler au départ.
Puis on prévoit déjà pour l'an prochain d'avoir 140 classes d'accueil aux primaires et un petit peu plus que 50 classes au secondaire. Donc, disons que de notre côté au centre de service, c'est un peu un retour à la normale après la pandémie, d'avoir des nombres comme ceux-là.
J'ai appris le français.
Est-ce que c'est facile?
Un peu.
C'est quoi le meilleur truc, ton conseil?
Fais juste de la confiance. Ça va marcher et elle va aller rigoler.
Je vais lui dire que s'il prend son cahier et écoute les consignes, ça va tout bien passer.
On travaille beaucoup avec des partenaires pour qu'il y ait des activités cet été pour nos élèves des classes d'accueil. Mobiliser les camps de jour pour qu'il y ait des places réservées pour les élèves des classes d'accueil, pour que ces élèves-là ne passent pas un deux mois, finalement, sans avoir trop été exposés au français.
Buenas vacaciones.
Y no te has mío.
Happy vacation.
Buenas ferias.
Buenas vacaciones.
C'est une nouvelle qui a fait beaucoup réagir aujourd'hui, qui a vraiment provoqué une onde de choc parce qu'on connaît maintenant la cause de la mort de Karim Ouellet. Selon la coroner Sophie Rignière, oui, l'auteur, compositeur, interprète, est décédé d'acidocétose diabétique. En fait, il souffrait de diabète de type 1, mais il refusait de se faire traiter ou de se traiter lui-même. En plus de l'autopsie, a révélé en fait qu'il consommait de la méthamphétamine. Sa prise de drogue pourrait expliquer son refus de traiter sa condition. Son corps, je vous le rappelle, a été découvert le 17 janvier dans un studio de la Basse-Ville de Québec. Et ce qu'on a appris aujourd'hui, c'est qu'il était mort depuis environ deux mois. Revenons maintenant sur la crise des passeports. Rien ne va plus à Montréal, on vous le disait en début d'émission. Mais c'est également le cas ailleurs, au Québec et même au pays. L'attente et les files interminables, c'est une réalité qui est bien présente dans les autres bureaux de Service Canada, comme l'a constaté mon collègue Phil Couture, qui est à Québec. Il est allé voir comment ça se passe.
Le chaos dans les bureaux de passeport continue. On s'est donc rendu à Place de la Cité rencontrer les gens qui attendent pour leur passeport. On sait que la plupart d'entre eux ont passé la nuit ici, alors on va les voir.
On était au moins 70 personnes, je dirais même plus, peut-être 80 personnes qui ont dormi dehors.
Mais dans le fond, moi, j'étais déjà venu hier toute la journée attendre. J'ai attendu 9 heures, puis on s'est fait offrir le bord. Fait que bon, on est venu coucher cette nuit pour être sûr de passer aujourd'hui.
On a entendu vraiment des histoires d'horreur, que ce soit à Montréal ou même apparemment ici les journées précédentes. Mais c'est ça, on a eu quelqu'un qui prenait les noms. Fait qu'on a tous joué le jeu. Là, on a tous mis notre nom avec l'heure d'arrivée. Donc finalement, ben tout le monde a pu avoir sa place, savoir quel était son numéro. Puis il n'y a eu aucun trouble. Là. Ça a bien été.
Et vous avez établi un système de relais avec des membres de votre famille?
Oui, dans le fond, moi, mon père est venu à 3h30 ici. Moi, je suis venue le relayer à 6h à peu près pour que lui puisse aller travailler. Fait que, puis après ça, ma mère va venir me relayer pour qu'elle puisse s'occuper vraiment de l'administration au passeport là, à ma place. Là.
Okay. Est-ce que là-dedans, tout le monde part en voyage en tout ça?
Oui, tout le monde passe. Bien, tout le monde a son passeport, sauf nous, puis moi, puis...
Nous autres, on n'a pas notre passeport, on part dans 3 semaines.
Okay.
Puis, ça commence à stresser. On commence à stresser pour ça. Il y en a qui prennent l'avion lundi, là, puis ouais. On prend encore leur passeport.
Je suis arrivé vers 1h, puis je suis reparti vers 3h30 quand ils nous ont dit que c'était fini, on passerait pas. Ils ont passé tous les cas à 2 jours, mais ce plus tard, à 3 jours et plus, là, on n'a pas passé.
Vous partez quand, vous?
Vendredi matin.
Ben j'espère. Je suis descendue de Montréal. Ça m'a coûté une chambre d'hôtel. Alors, j'espère.
Parce que les dossiers ont été envoyés à Gatineau.
Ouais.
Donc, il a fallu venir faire la file pour avoir le transfert vers Québec. Mais là, on n'a pas eu d'appel. Donc, on ne sait pas l'état des dossiers, où est-ce qu'ils sont finalement. Fait qu'on est là pour essayer de trouver une solution parce qu'on part dans 48 heures. Donc, l'objectif, c'est de sortir d'ici avec un passeport.
Ils sont prêts à tout pour avoir leur passeport. La semaine dernière, on vous parlait de citoyens de Montréal et des alentours qui faisaient la route jusqu'à Saguenay pour aller récupérer leurs précieux documents. Le bureau de l'arrondissement Chicoutimi a connu, vous l'imaginez, une importante hausse d'affluence, comme l'a constaté mon collègue Marc-Antoine Maillot.
Moi, je suis arrivée à 5 heures du matin. Il y a des gens qui ont passé la nuit et la nuit d'avant ici, déjà. Là.
Pas la nuit qui vient de passer, c'est depuis 2 heures la nuit d'avant. Puis, on est équipé d'un gros sleeping bag, du sucre, parce que la nuit d'avant, il faisait froid. Cette nuit, c'était bien quand même.
En fait, on est résident là, des Laurentides, Saint-Colomban, puis on est arrivé hier soir à 22 heures.
Il est 22 heures, donc vous avez dormi sur le trottoir?
Oui, ouais. On a relayé, en fait, là, voiture et trottoir ensemble. On a passé la nuit avec des gens super sympathiques. Là. On a passé une nuit agréable malgré tout.
Des gens m'ont raconté avoir entendu 2 nuits ici, sur le trottoir, sur la rue Racine, sans avoir reçu le service.
En fait, on est arrivé ici hier soir vers minuit, puis on est resté comme la majorité des gens à l'extérieur, couchés sur des chaises longues avec des couvertes, en espérant qu'on va passer, puis on va recevoir un passeport parce que j'ai une fils mineure qui voyage demain. La lenteur d'agir dans cette situation-là est inexplicable parce qu'ils ont amplement de temps pour planifier les choses. On est payé qui est hautement éduqué puis instruit à la technologie. On a tous les outils, puis le gouvernement, là, n'agit pas.
Comment vous avez trouvé votre nuit sur le trottoir?
On va pas mourir, mais c'est pas agréable. On a fait 4h30 de route avec l'appui de Montréal pour nous rendre ici. C'est sûr, faire du camping à l'âge de près de 60 ans, c'est pas le type de camping que j'aimerais faire.
Et on se dirige vers un autre été difficile dans les hôpitaux du Québec. Il y a 6 urgences qui vont être fermées. Ça a été annoncé, en fait, par communiqué aujourd'hui. Bon, c'est des fermetures partielles, mais quand on a un système de santé qui est déjà étiré au maximum, comme le nôtre, bien, on ne peut pas douter de l'impact que ça va avoir dans les salles d'attente. Le gouvernement justifie sa décision en disant qu'il manque en ce moment pas mal de personnel. Au total, c'est autour de 60 000 travailleurs de la santé qui sont absents du réseau. Ce qui n'est pas pour arranger les choses, c'est la COVID-19 qui continue de se répandre. Oui, même si on en parle moins, il y a 1084 personnes qui sont hospitalisées en ce moment. C'est quand même 43 de plus qu'hier. Et les travailleurs de la santé ne sont pas épargnés. Ils sont plus de 4 800 en retrait préventif. Et un chiffre qui donne le vertige, c'est 15 553. Ça, c'est le nombre de Québécois décédés de la COVID-19 depuis le début de la pandémie. Montréal accueille en ce moment le premier wet shelter au Québec. C'est quoi ça? Bien, on pourrait traduire ça par refuge alcoolisé, puis c'est littéralement ça, en fait. C'est un refuge où on permet à des personnes en situation d'itinérance de consommer de l'alcool, alors que normalement, ceux qui sont intoxiqués ne sont pas admis dans ces établissements. J'en parle avec ma collègue Camille Lorrain-Desjardins. Salut, Camille.
Salut, Michel.
Je suis intéressée à ce sujet-là. On comprend que cette initiative peut vraiment faire sourciller, mais les wet shelters accueillent ailleurs au Canada, il y en a.
Oui.
C'est un premier ici à Montréal.
Exact. Puis en fait, le Québec est un peu en retard sur ce point-là parce qu'il y en a une vingtaine ailleurs dans le Canada, des centres ou des refuges qui accueillent des personnes itinérantes avec alcool. Donc, l'année passée, il y a eu un projet pilote à l'ancien hôpital Royal Victoria par le CIUS Centre-Sud de l'île de Montréal. Et là, donc, c'est un projet qui est implanté à la mission Oldbury. Et donc, ça commence, il va y avoir une trentaine de places là, dédiées à ce programme-là.
Bon, et explique-nous un peu comment ça fonctionne.
Oui, alors c'est pour des personnes qui ont vraiment un problème d'alcoolisme chronique dans leur vie qui les empêche de fonctionner. Donc, on va premièrement faire une évaluation psychosociale de la personne, une évaluation de sa consommation aussi. Et là, à partir de ce moment-là, si la personne, elle accepte d'entrer dans le programme, donc elle va venir habiter 24 heures sur 24 à la mission Oldbury et on va établir un plan de consommation, c'est-à-dire un peu comme on le ferait pour des médicaments. On va dire, bien, à toutes les heures, tu as le droit à tant de millilitres et on va lui servir de la bière. Et en fait, ça permet d'éviter que la personne soit en sevrage, mais ça permet aussi d'éviter qu'elle soit intoxiquée. Donc, on stabilise la consommation.
Alors, assez pour ne pas être en sevrage. Et
pas trop,
exactement.
Exactement. Et donc, ça peut paraître contre-intuitif, mais ça a fait ses preuves ailleurs. Et la directrice de la mission Oldbury disait que pour des personnes qui vivent dans la rue, qui sont alcooliques, ça prend vraiment toute la place dans leur vie. Et donc, de leur donner cette base un peu sécurisée là, avec un toit, avec de la nourriture, mais ça leur permet de sortir la tête de l'eau. Puis de par la suite,
sortir de la rue.
Oui, c'est ça. Puis de pouvoir ensuite s'attaquer aux autres problématiques dans leur vie. Puis elle disait d'ailleurs qu'ils ont commencé à en accueillir dès la fin du mois d'avril. C'était comme une période test. Puis pour ces gens-là, bien, en moins d'une semaine, là, elle voyait déjà des impacts positifs. On peut l'écouter.
J'ai assisté moi-même à une conversation entre deux où ils se montraient les plaies, les différents bobos qu'il y avait un peu partout sur le corps qui étaient en train de guérir des teints qui ont changé, donc du diabète mieux contrôlé. On a une personne qui utilisait nos services de façon fréquente pour qui on devait appeler les ambulanciers de 2 à 4 fois par semaine. Et là, on parle de 0 fois par semaine, aucune fois depuis qu'il est dans le programme, là.
J'ai aussi parlé à Stéphane. Donc, lui, c'est un des tout premiers usagers à avoir entré dans ce programme-là, il y a 2 mois. Ça faisait 12 ans qu'il voguait, là, qu'il n'avait pas de domicile fixe. Et lui aussi, il m'a parlé des bienfaits déjà sur sa santé.
C'est contrôlé, puis c'est ça que j'ai besoin. J'ai besoin de discipline. Hein. En plus, ça me motive à slacker, parce que j'ai perdu le contrôle, là, à un moment donné. Depuis un an, ça fait 4 fois que je suis hospitalisé pour des fractures du crâne. Je tombe à terre, fait que c'est grave, là. Fait que je pense que c'est une bouée de secours, ça.
Donc, il n'y a pas de durée préétablie pour ce programme-là. On y va vraiment selon les besoins de chaque usager. Donc, on pourra voir là, au cours des prochains mois comment ça évolue tout
Mais
ça.
On le rappelle, pour ceux qui peuvent trouver ça un peu étrange, que ça permet à ces gens-là de ne pas dormir dans la rue, d'avoir un toit, d'être accompagnés, également encadrés. Et peut-être qu'on leur souhaite un jour de sortir complètement
de se trouver un logement.
Et des problèmes d'alcoolisme. Merci beaucoup, Camille.
De rien, au revoir.
Maintenant, vaste opération politique et policière cet après-midi dans Rivière-des-Prairies, un quartier montréalais, on vous en a parlé souvent, qui est durement touché par la hausse de la violence armée. La mairesse de Montréal et la chef du SPVM ont tenté de rassurer la population de l'arrondissement. Une vingtaine de policiers ont aussi fait du porte-à-porte une partie de l'après-midi pour inciter les citoyens à les contacter s'ils ont des informations pertinentes pouvant les aider à faire progresser les différentes enquêtes.
Moi, j'étais avec quatre enfants à Montréal-Nord. J'ai déménagé ici, mais j'ai vécu les mêmes choses, malheureusement. J'ai été 6 mois de plein de
monde y travaille. C'est ça le message qu'on a aujourd'hui.
En fait, notre présence ici s'explique par une seule chose. On veut que les gens sachent que nous sommes là, que nous sommes solidaires à la situation qu'ils vivent. Il n'y a pas de petites informations. Chaque information prend son importance. Chaque information va être prise, sera traitée. Il n'y a rien qui est laissé au hasard au niveau du SPVM.
Scène internationale maintenant, bien, la guerre en Ukraine se poursuit pour une 119e journée. Et avec ce qui se passe sur le terrain, bien, on voit mal quand le conflit va se terminer. La Russie continue de marteler l'est du pays avec ses tirs d'artillerie et ses chars d'assaut. Pendant que l'Ukraine espère devenir candidate pour intégrer l'Union européenne, le président chinois est finalement sorti de son mutisme. Xi Jinping a dénoncé l'élargissement des alliances militaires, une critique directe au pays de l'OTAN. Et puis en Afghanistan, maintenant, il y a eu un important tremblement de terre qui a fait des centaines de morts, en fait au moins 1000 morts. Il y a également 1500 autres personnes qui ont été blessées et au moins 2000 bâtiments qui ont été détruits. Le séisme a donné lieu à des scènes déchirantes. Les gens fouillent les débris à mains nues dans l'espoir de trouver des survivants, ce qui pourrait être très long, donc des recherches qui pourraient s'étirer. L'évacuation des blessés est très difficile parce que la plupart des organismes humanitaires, vous savez, ont quitté le pays. La tragédie devient vraiment tout un test pour le gouvernement taliban qui a pris le pouvoir il y a maintenant une dizaine de mois. Au retour, on vous explique pourquoi un chevalier du 13e siècle doit arriver à Québec d'ici quelques jours. Connaissez-vous l'artiste français Abraham Poincheval? Bien, il est reconnu pour ses exploits hors du commun et on peut dire que ce qu'il fait en ce moment entre dans cette catégorie. Il s'est mis une armure de chevalier pour marcher les 280 km du chemin du roi entre Montréal et Québec. Ma collègue Frédéric Bacon s'est intéressée à cette démarche artistique.
On est le sixième jour de marche en fait en chevalier errant. Là hier soir on est arrivé à Silex, voilà, à Trois-Rivières. Et on va rejoindre Québec au centre d'art Le Lieu. C'est en fait l'idée d'une épopée, en fait, alors d'une épopée un peu étrange bien entendu, mais de reprendre la question de l'épopée, mais au 21e siècle. Donc, du coup, une sorte, par l'étrangeté, un chevalier qui se retrouverait projeté au 21e siècle. Sur le chemin du roi.
Et on le suit à tous les points pour assurer la sécurité. Il y a aussi Noah, qui est notre caméraman, qui a décidé de faire la route à pied lui aussi. Là, on va faire un mini-film documentaire avec ça. Donc, il y a beaucoup d'interactions du public. C'est un grand voyage.
Donc. L'armure, elle pèse 36 kilos. Donc, du coup, c'est pas énorme, mais en même temps, c'est beaucoup au bout d'un temps. Et puis, c'est aussi une façon, le poids de cette armure, c'est aussi une façon de rentrer dans le projet, quoi, en fait. Voilà. L'armure a été fabriquée en Italie par un artisan italien. En fait, c'est une réplique à l'identique. Là, elle est faite sur mesure, parce qu'en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que quand les armures ne sont pas sur mesure, c'est importable. C'est un peu ma spécificité en tant qu'artiste, c'est cette question, justement, vous le dites très bien, de l'immersion, en fait. C'est comment on s'immerge dans des projets et dans des endroits très précis. Ouais. Par exemple, je me suis enfermé une fois dans un ours naturalisé dans un musée pendant 13 jours. Donc, j'ai vécu à l'intérieur d'un ours, alors bien entendu, hein, pas vivant, sinon je serais pas ici. Mais voilà, j'en ai fait un autre où j'ai habité une pierre, en fait un rocher qui pesait 12 tonnes, à l'intérieur desquelles avait été creusée une cavité qui était en fait ma silhouette dans laquelle j'habitais pendant une semaine. J'ai couvé des œufs de poule aussi. J'ai fait l'expérience d'être une poule un jour. Et voilà, en 21 jours, pour jusqu'au moment où j'ai fini par avoir des poussins, voilà, par ma propre chaleur, ma propre humidité. Voilà, c'est toujours un peu des projets un peu, qui semblent peut-être un peu étranges comme ça, mais en même temps qui questionnent le rapport à la réalité que nous entretenons. Le prochain, il y en a plusieurs en écriture en ce moment. Il y en a un qui est d'habiter une ruche avec des abeilles. Et il y a une autre pièce qu'on est en train de préparer aussi, qui est une pièce pour un aquarium, de construire une petite maison, un peu, vous voyez, comme les maisons de poupées. Et voilà, elle est toute en vitrail et elle est habitable et elle est à 4-5 mètres sous l'eau, du coup avec des poissons qui tournent autour.
Polytechnique Montréal vient de nommer une femme à sa tête pour la première fois en 149 ans d'histoire. Imaginez, il s'agit de Maude Cohen, qui a elle-même gradué de Polytechnique en génie industriel en 1996 et qui devient donc directrice générale de l'institution. Sa nomination a été entérinée par le Conseil des ministres du gouvernement du Québec cet après-midi. Elle est reconnue pour son implication dans plusieurs organismes de charité, dont la Fondation du CHU Sainte-Justine, dont elle était la directrice générale jusqu'à mars 2022. Elle a également été présidente de l'Ordre des ingénieurs du Québec. Bonsoir, Étienne. Bonsoir, Michel. J'allais dire rebonsoir, mais on ne s'est pas encore vu en ondes ce soir. Aujourd'hui, à quelques jours de la fête nationale, il y a des personnalités québécoises qui ont été décorées de l'Ordre national du Québec.
Oui, 36e cérémonie de l'histoire du Québec. La première fois, c'était en 85. C'était René Lévesque qui avait remis les premières médailles. Mm-hmm. Plusieurs personnalités qu'on connaît qui ont été récompensées aujourd'hui. Microbiologiste Caroline Couache, notamment Jean-François Lépine, journaliste qui a représenté le Québec en Chine. L'artiste Louise Forestier. René Simard également. Denise Robert, la productrice. Donc, plusieurs personnalités aujourd'hui, là. Sont récompensés.
On a appris cette semaine que la COP15 aura finalement lieu du côté de Montréal. Tu vas en parler ce soir à 22h?
Oui. Plutôt qu'en Chine, on va avoir Stephen Guilbeault qui va nous expliquer pourquoi c'est important d'avoir un autre sommet sur l'environnement. Mm-hmm. Est-ce que c'est nécessaire d'avoir des centaines de délégués qui vont venir chez nous en décembre? On lui pose des questions.
Bon, et bonne nouvelle qu'on vient d'apprendre de notre côté, c'est qu'il y a une production de Nouveau Info qui est en nomination aux Gémeaux.
Le show parallèle qui avait été fait donc pour la soirée électorale québécoise à l'automne, Émilie Clavette qui l'avait animé, mais là, on est en nomination dans deux catégories pour meilleure émission numérique et meilleure animation d'une émission numérique.
Wow,
bonne nouvelle.
Bravo, félicitations à toute l'équipe, cette nomination. On se laisse, bonne soirée, on se retrouve demain, 17h. Bye bye.